Je suis en compagnie de Patrick Deville, bonjour. Nous parlons de Amazonia, votre nouveau roman, paru au Seuil en cette rentrée littéraire de septembre 2019. Au commencement, serait Moravagine, je vous lis. Il faut se méfier des livres qu'on recommande aux fils. C'est sur une forte recommandation paternelle, une injonction que j'avais lu enfant Moravagine. Même s'il me semblait étrange, ce livre, j'avais longtemps pensé qu'il était écrit pour moi puisque mon père me l'avait imposé. J'y trouvais le goût des tours du monde, la parenté du faux Moravagine et du fou Tabataba. Et ainsi vous reliez Amazonia à votre précédent livre qui s'appelait Tabataba.
Oui, c'était... Bon, ce sont des histoires de père-fils, donc j'avais prévu de parler à nouveau, d'écrire à nouveau sur Sandrars, puisque tout cela est prévu de très longue date. Et comme j'avais mentionné déjà dans Tabataba, en effet, cette curieuse injonction paternelle de lire Moravagine à un âge où on ne lit pas Moravagine, j'avais découvert ensuite que ce cadeau qu'avait fait Sandrars à son propre fils, cadeau malheureux, et il me semblait que ça pouvait, puisque le sujet du livre c'est de reprendre ces histoires de père et de fils, ça pouvait en être une introduction.
Alors le fils, effectivement, c'est Pierre. Nous avons, par exemple, raconté sa conception, page 19, je vous lis. On distinguait autrefois les enfants naturels des enfants légitimes, mais tous étaient naturels. Après 10 ans de vie commune, nous avions avec Florence décidé que cet enfant légendaire dont nous parlions de temps à autre pouvait enfin voir le jour. Avant de naître dans une maternité angevine, Pierre fut conçu un soir de juin 1988 au bord de l'océan, à peu de distance du lazaret où j'avais été conçu en mars 1957, avant de naître dans la maternité de Paimboeuf, la plus proche de notre hôpital psychiatrique par la terre ferme. Nous avons, juste en un paragraphe, cette généalogie et l'apparition de Pierre, votre fils. J'aimerais comprendre comment vous est venue l'idée de ce projet d'Amazonia, c'est-à-dire de vous embarquer avec votre fils Pierre qui apparaît là, au tout début de votre livre, et de remonter ainsi l'Amazone.
Ce sont tout de même un peu à la fois des coïncidences. Ce qui était prévu et de très longue date, c'est que j'en arrivais à écrire ce livre amazonien, puisqu'il s'agit de ce projet Abracadabra, entamé le 21 février 1997, et Amazonia se termine 22 ans après, le 21 février 2019. Et se termine, enfin ce livre-là, momentanément, puisque c'est un projet de 12 romans sans fiction, et qu'il en est le 7e. Donc il y a une progression géographique inébranlable à ce projet depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que les premiers, nous en avions parlé il y a 2 ans, enfin les premiers livres romans sans fiction, toujours de 1860 à aujourd'hui, les premiers progressaient de l'ouest vers l'est. Il y avait un premier tour du monde depuis Pura Vida en Amérique centrale, Equatoria qui est une traversée équatoriale de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien, puis Kampuchea autour du procès des Khmers Rouges encore plus à l'est. Peste et choléra se terminaient à Nha Trang sur la côte de l'actuel Vietnam. En face, il y a le port d'Acapulco où débarque Malcolm Lowry, c'est le début de Viva, qui se termine avec l'embarquement d'Antonin Artaud à Veracruz sur la ligne régulière Veracruz-La Havane-Saint-Nazaire. Et Tabataba commençait à Saint-Nazaire et c'était le français qui était à la fois un tour de la France pendant 2 ans au volant et puis un demi-tour sur moi-même, sur l'histoire de la France, pour repartir dans l'autre sens, pour un deuxième tour du monde, les 6 derniers livres. De l'est vers l'ouest, et Amazonia commence donc à Belém sur l'Atlantique jusqu'à Santa Elena sur le Pacifique. Alors moi j'en arrivais dans tous les cas à écrire ce livre pour répondre à votre question, Et je souhaite que cela dure longtemps, donc reprenant mes carnets, mes notes de lecture, de séjour, depuis une quinzaine d'années au Brésil, en Équateur, au Pérou. Et, mais il se trouve que Pierre a lu Tabataba, le précédent, dans lequel donc, je racontais ma vie avec mon père, celle de mon père avec son père, et ainsi de suite, de manière patrilinéaire jusqu'au Second Empire français, donc 1860. Et j'ai proposé à Pierre de continuer cette expérience avec la différence immense que nous sommes tous les deux vivants. Alors, il a hésité, nous avons hésité tous les deux, et finalement nous avons entrepris de faire ce parcours ensemble de l'Atlantique au Pacifique. Mais il n'avait pas le... Bon, il aurait pu refuser, il a hésité, hein. Mais en tout cas, il n'avait pas le choix du lieu. J'en arrivais, pour ma part, à écrire cet Amazonien. Le livre est très différent de ce qu'il aurait été. Je n'en sais rien. Enfin, je sais qu'il serait... Je ne sais pas ce qu'il aurait été. Mais il aurait été très différent si Pierre ne s'était pas joint à cette expérience père-fils.
Oui, ça fait un véritable pendant avec Tabataba. Tabataba, le passé. Pierre, le futur. Et... Ce qui fonctionne bien avec un demi-tour, vous venez d'expliquer Patrick Deville, c'est le demi-tour, c'est-à-dire que Tabataba c'était le français, et là maintenant on va dans l'autre sens, et on va dans l'autre sens, et symboliquement c'est quand même assez puissant de prendre ce gigantesque fleuve qu'est l'Amazonia et de le remonter, c'est-à-dire c'est la traversée de l'Amérique du Sud. Ce voyage il se fait pas n'importe comment, il se fait pas à pied, il se fait pas en voiture, il se fait en bateau. Et voici ce que vous écrivez. Quelle que soit l'embarcation, navire ou barcasse, pirogue ou sampan, il me semblait vivre mieux sur quelque chose qui flotte. Alors c'est quoi ce bateau sur lequel vous avez navigué ?
Non, tout d'abord ça c'est une vérité générale. J'ai grandi en Bretagne, enfin cet hôpital psychiatrique, enfant. Ensuite à l'extérieur tout de même de cet hôpital psychiatrique. Et donc j'ai appris à naviguer un peu comme tous les gens du bord de mer breton, à la voile d'abord, enfin mes premiers voyages ont été à la voile. Et depuis, c'est une fascination, c'est une vérité personnelle, que ce soit un cargo ou une pirogue, je me sens mieux, je me sens vivre mieux sur quelque chose qui flotte. Et parmi ces navigations, donc certaines maritimes, mais... j'ai un goût très grand pour la navigation fluviale. Je l'avais écrit un peu déjà, enfin dans Equatoria, naviguant sur le Logoué et le Congo, dans Kampuchea, remontant le Mekong. Et la navigation fluviale a ceci de particulier qu'elle est lente et paisible. Et qu'elle est un peu un ailleurs du monde. Enfin, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la cabine de navire, lorsqu'il s'agit de navires sur les fleuves, c'est cette possibilité de concilier en quelque sorte enfin, le goût pascalien du retrait. Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre, en la cabine de navire en est une, mais ça allie en quelque sorte Pascal et Conrad ou Jules Verne, le roman d'aventure, puisque de cette cabine, on voit défiler le paysage, et puis en Amazonie, les bestioles, les gens, enfin tout ce qu'on peut voir sur les rives. Où on met pied à terre tout de même quelquefois. Ces navires mouillent la nuit, là, c'est assez rare. Enfin, on a fait quelques navigations de nuit, mais souvent ils mouillent, en tout cas sur les affluents. L'Amazone, c'est autre chose. L'Amazone, c'est une autoroute extrêmement large, sur laquelle il y a des porte-conteneurs, des navires énormes qui vont chercher le soja ou les productions amazoniennes jusque assez loin. Jusqu'à Santarém, Manaus. Mais sur les affluents, c'est une navigation beaucoup plus onirique.
Il y avait aussi cette autre phrase à propos de Pascal. Ces hommes qui ne suivirent pas le conseil pascalien, je vous cite à nouveau Patrick Deville, de demeurer au repos dans une chambre, sont morts pour que nous puissions écrire des histoires. Alors, parce qu'on comprend bien que ce voyage, il est aussi littéraire. ou plutôt la littérature appelle le voyage. Et vous avez cette injonction à propos de ce phénomène étonnant à la confluence du Taparoge et de l'Amazone. Les deux couleurs des eaux qui ne se mélangent pas. Et vous écrivez à ce moment-là, « Je l'avais lu et le savais, mais il est toujours réconfortant de vérifier la bibliothèque et d'y aller voir. » Ça, c'est une injonction.
C'est un peu le principe de ces livres qui ne pourraient pas se faire sans, en amont, la bibliothèque, la lecture, la littérature. Mais néanmoins, il faut y aller voir, il faut y aller avec son corps, avec ses yeux, pas seulement avec les yeux, enfin avec tous les sens, pour les sons, pour les odeurs, et puis pour vérifier aussi, en effet, ce sont des endroits qui font rêver les enfants, ces fleuves qui confluent et ne se mélangent pas pendant des dizaines de kilomètres. Mais dans Tabataba, j'étais allé voir à Khartoum la rencontre du Nil bleu et du Nil blanc, qui, de la même façon, mettent moins longtemps tout de même à mêler leurs eaux. Mais c'est cette éternelle histoire du tapis magique enfant, de se dire, voilà, finalement c'est vrai, je suis là, je vois ces images, je vois ces fleuves.
Alors je vais reprendre à nouveau cette phrase sur Pascal. Ces hommes qui ne suivirent pas le conseil pascalien de demeurer au repos dans une chambre sont morts pour que nous puissions écrire des histoires. Parce que dans votre livre Amazonia, Patrick Deville, on découvre de très nombreuses vies édifiantes. Et j'aimerais qu'on en prenne quelques-unes. Par exemple, celle-ci qui me fit sensation de lecteur, celle de Lampiao, le bandit star. C'est qui ce bandit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et en quelques pages, vous racontez sa vie.
Oui, ça, c'est ce genre littéraire des vies avec un V majuscule. Il n'y a pas que cela dans ces romans sans fiction, mais il y a des vies en accéléré, des vies en quelques pages, reprendre ces histoires. Et depuis très longtemps, je savais, alors là, Pierre ou pas à bord, que je voulais écrire la vie de Lampiao et de Maria Bonita, ce couple légendaire de bandits, Lampion et la jolie Marie. Et que je connaissais depuis très longtemps, depuis justement ses séjours au Brésil. Mais Sandras avait voulu l'écrire pendant très longtemps. Il a le projet d'écrire ça et puis finalement il ne le fera jamais. Mais je l'avais depuis très très longtemps et je travaillais là-dessus depuis. Parce que ces livres sont ainsi faits, enfin enchevêtrés, où il y a ce qu'on appelle en architecture haussmannienne les pierres d'attente, comme ici, enfin où il y a des moellons qui dépassent des immeubles en attendant le prochain, et ces livres sont faits ainsi. Et par exemple, il ne faut pas trop que ça se remarque, mais dans Peste et choléra apparaît le nom de Lampiao, mais juste sans aucune information. Au moment où Yersin tombe sur le bandit de grand chemin Touk, qu'il y a un combat, qu'il risque de mourir, à ce moment-là j'énumère comme ça et je donne quelques noms de bandits, dont Lampiao. Et ça, c'était en 12. Enfin, le livre a paru en 12, et finalement en 19 paraît ce livre dans lequel, mais je le savais, j'écris réellement la vie de ce bandit légendaire, de ce couple de bandits légendaires, un peu Bonnie and Clyde, qui en effet, à un moment, puisque ce sont les années 20 et 30 du 20e siècle, et il est le premier bandit sous contrat publicitaire, il accepte journaliste, il y a un film qui est tourné qui lui coûtera vraisemblablement la vie parce qu'il devient une star dans les salles de cinéma, et parce qu'il invente tout un folklore, une cour, des vêtements, des bijoux, il mène grand train, enfin c'est une... bon, et puis c'est bien sûr, ça se termine mal, comme ce genre de vie, ils sont abattus tous les deux, ce couple, et leurs hommes autour d'eux d'ailleurs.
Oui, ils sont abattus un peu salement par des paysans. Il y a même cette phrase un peu graveleuse. Puis nous avons soulevé sa jupe avec le canon du fusil, la jupe de Maria Bonita, pour voir sa culotte qui était rouge.
Oui, ça, c'est un témoignage authentique. On ne peut pas l'inventer, ce genre de choses. Enfin, c'est bien pour ça que je n'écris pas de fiction. Mais par contre, en travaillant, en cherchant, il y a eu tellement de choses décrites. La littérature de Cordel, sur les bandits légendaires, ces petits poèmes, ces petits fascicules, et puis des témoignages, en effet, de ceux qui ont participé à l'attaque de cette grotte en 38.
Alors prenons une autre vie qui est en filigrane avec ce mot caoutchouc et avec ce qu'il produit. Vous écrivez, les Indiens Maïpas nomment la résine qu'ils en tirent caoutchouc, ce qui se prononce caoutchouc et signifie les pleurs de l'arbre. Et à partir de là, dans votre livre, il va toujours y avoir en filigrane des moments où on va revenir sur cette histoire du caoutchouc et vous allez presque pouvoir en fait nous faire vivre une histoire industrielle également qui va passer du Brésil à l'Angleterre pour aller jusqu'en Asie du Sud-Est. Ça peut être comme une ligne comme ça qui est tissée en fonction de d'où va venir ce caoutchouc, s'il vient du Brésil, s'il vient d'Asie du Sud-Est, notamment d'Indochine, ou s'il est fabriqué de manière synthétique en Europe. Et alors, ça pourrait passer par la vie de Henri Wickman.
Oui, c'est un peu le sujet de ces livres, hein, qui, encore une fois, peuvent se lire indépendamment les uns des autres, dans le désordre, etc., mais qui néanmoins constituent un livre unique, une enquête unique, deux fois autour du monde, enfin, pour deux tours du monde, et qui commence en 1860, qui est justement cette année de la première mondialisation de la planète. Et dans cette mondialisation, il y a l'apparition des déplacements botaniques qui ont commencé avant, mais qui s'industrialisent à ce moment-là. Les caféiers arabes, donc africains, sont plantés en Amérique. La première fortune du Brésil, après l'or, c'est le café. Et puis ensuite, cette histoire du caoutchouc est absolument représentative de tout cela, puisque au Brésil, quand il y a ce grand boom du caoutchouc, les fortunes immenses, la création d'une ville comme Manaus en plein milieu de la jungle, au bord du fleuve, qui devient l'une des villes les plus riches du monde, la première électrifiée perdue au cœur de la jungle, avec ce théâtre Amazonas, l'opéra, et puis un jeune Anglais, Henry Wickham, qui n'a pas les moyens de monter une entreprise de caoutchouc, comme les grands barons du caoutchouc, parce que c'est une lutte féroce, hein, Fitzcarral, Arana, a l'idée, le premier, d'envoyer des Indiens collecter des graines d'Hevea brasiliensis. On envoie une tonne à Liverpool par navire, où on les fait germer dans des serres chauffées, et puis les Anglais envoient ces plants en Asie, où ils sont cultivé en rang d'oignon. Et c'est l'invention du caoutchouc de plantation qui va ruiner le Brésil. Alors les Anglais d'abord, Singapour, etc. Et puis les Néerlandais, Java, l'Indonésie. Et puis Yersin, dont j'avais écrit la vie dans Peste et choléra, qui est le premier à planter l'EVA en Indochine et à fournir du caoutchouc pour Michelin. Et puis c'est le moment de l'invention du pneu et de l'automobile. Et c'est la ruine. En quelques mois, le Brésil est ruiné. C'est le début de la Première Guerre mondiale, c'est 14. Et parce que au Brésil, il n'y avait pas de caoutchouc de plantation. C'est la vie terrible des seringueiros, qui sont des gens qui partent dans la jungle chercher les EVA pour les saigner au hasard de la forêt. Et ensuite, Henry Ford, parce que c'est lié à l'essor de l'automobile, va créer Fordlandia au Brésil. Et donc, c'est l'inverse. Il fait venir des plants d'Asie. Il obtient des millions d'hectares du Brésil et en fait un lieu qui s'extrait complètement de la législation brésilienne. Il en fait une espèce de province autonome pour produire du caoutchouc de plantation pour les usines Ford et les pneus. Voilà. C'est toute cette folie sur, depuis un siècle et demi de la deuxième révolution industrielle.
Et ça nous permet, nous, lecteurs, d'avoir affaire à une partie, d'embrasser cette mondialisation des échanges, ici par le caoutchouc. Et alors, je vais m'arrêter sur cet exemple-là, qui est aussi un fil conducteur qu'on retrouve à différents endroits d'Amazonia, Patrick Deville, parce que on a affaire à un art de raconter. Vous n'écrivez pas de la fiction, mais il y a un art narratif. Et donc, il y a un système narratif. Et se pose pour moi ce problème de comment définir ce type d'écriture par fragment d'histoire. En gros, quel pourrait être le statut de votre texte ?
Moi, je persiste et je revendique d'appeler ces livres romans, c'est écrit sur la couverture, mais en disant bien que ce sont des romans sans fiction, ce qui est un peu réducteur. Sans fiction, cela signifie que je n'invente pas de personnages, je n'invente pas d'événements, je n'écris jamais sur des lieux que je n'ai pas vus, toutes les dates sont vérifiables, la géographie, l'histoire. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de fiction. Mais sans fiction ne signifie pas sans invention, bien sûr. Et parce que tout cela est extrêmement romanesque, étant vrai. À la fois cette histoire du caoutchouc, la vie et la mort de Lampion et de Jolie Marie, tout cela est extrêmement romanesque et ça permet de jouer sur des genres littéraires très différents. Mais au total, alors, parfois je suis pris à mon propre piège. Je l'écris dans ce livre, lorsque j'avais reçu un courrier de lecteurs qui, après la lecture d'Equatoria et après les éloges de rigueur, m'écrivait, et cependant je viens prendre la défense de la tectonique des plaques que vous maltraitez, et j'avais écrit une espèce de rêve, enfin Sao Tome et Principe, en imaginant que ces deux îles auraient pu être arrachées par la plaque américaine en s'arrachant à l'africaine, et puis m'envoyant un courrier très très beau, scientifique et très beau sur le pourquoi non, ces deux îles sont bien sur leur bonne longitude. Et j'avais attendu plus d'un an pour savoir qui était ce lecteur que j'ai découvert, directeur de l'Institut de physique du globe de Clermont-Ferrand, avec qui j'ai pris contact pour lui demander l'autorisation de reproduire ce texte dans Amazonia. Et bien sûr, là, cette idée, cette hypothèse que je racontais était une hypothèse totalement farfelue et pas du tout scientifique, et donc de fiction. Mais enfin, de la même façon, lorsque dans Kampuchea, je raconte que je prends un verre avec Pierre Loti à Kanto, et que nous sommes en 1901. C'est-à-dire que, voilà, il y a néanmoins, oui, c'est très réducteur, mais enfin, il n'y a pas de fiction au sens où on l'entend la plupart du temps dans les romans.
Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est celui d'imaginaire. Alors, est-ce qu'il y a de l'imaginaire ou pas ? Vous pouvez répondre, bon, non, il n'y a pas d'imaginaire, je m'en fous.
Non, je dis, ce sont des livres sans fiction, mais pas sans invention. Et donc, dans cette invention, il y a évidemment l'imaginaire. D'abord, il y a l'imaginaire de la poésie, de la littérature, de la peinture, puisqu'on arrive toujours avec tout ça. Enfin, voyager. Je ne pourrais pas faire ces livres en bibliothèque, ce serait autre chose, ou ce serait des essais. Mais en même temps, je ne pourrais pas non plus les faire s'il n'y avait pas, si je ne transportais pas avec moi tout cet imaginaire, on peut l'appeler ainsi, des lectures. L'Amazonie, mon Amazonie, elle vient évidemment des Indiens bleus de Sandrars, de Moravagine. On n'est jamais. Et là, ce sont des histoires d'enfants, quoi. Les Indiens bleus sont de très très lointains souvenirs d'enfants. Mais la lecture de Jules Verne, Superbe Orénoque, la Jean Gada, tout cela, bien évidemment, nourrit un imaginaire. Sinon, se déplacer sans la bibliothèque, ça n'aurait pas d'intérêt non plus. Enfin, il y a ce genre littéraire mineur du récit de voyage, il y en a dans ces livres. puisque le grand bonheur que j'éprouve à la construction de ces livres, c'est de pouvoir passer d'un genre littéraire à un autre, d'un chapitre à un autre. Ils sont tous constitués de chapitres très très courts, de quelques pages, parfois deux pages, et introduits par un petit titre en grâce, en majuscule, qui est une espèce de marche, de respiration, et qui peut permettre de passer d'un genre littéraire à un autre. Alors, il y a ces récits de vie légendaire, ça renvoie à Marcel Schwab, à Plutarque, etc., avec parfois du genre épique. Ce serait difficile d'écrire tout un livre, enfin pour moi, épique, mais il est possible d'utiliser ce genre épique. Et d'autres genres littéraires qui sont en effet de l'imaginaire, mais à partir de la connaissance de l'histoire et de la géographie.
Alors dans ces vies édifiantes, et dans celle-ci qui pourrait presque être aussi caricaturale, si elle n'était exacte, qui pourrait être grand carnavalesque, mais en même temps qui à la fois est drôle, mais pathétique, et dramatique, mais elle est dans le registre comique, c'est celle de Mariano Melgarejo. Et notamment, alors, j'ai juste envie de lire le passage peut-être le plus savoureux. Donc c'était un dictateur, mais déjà la manière dont il a pu l'être est cocasse. Le dictateur est analphabète, écrivez-vous. Soit. Alcoolique et sanguinaire, mais francophile. Lorsqu'il apprend en juillet 1870 l'invasion prussienne, il veut sauver Paris, la ville de l'élégance et des bonnes manières, ne la trouve pas sur la carte. Son état-major le met en garde. C'est très loin. Il répond « Tomeremos un ataro ! Nous prendrons un raccourci. » 3000 hommes avancent dans la jungle amazonienne du Brésil en direction de l'Atlantique.
Là encore, c'est à propos de lui que cette autre phrase que vous lisiez tout à l'heure, on a l'impression que ces hommes ont mené leur vie pour que nous puissions écrire des histoires. C'est tellement à la fois terrible mais pathétique que ça en devient drôle. Enfin, ces vies de dictateurs cinglés. Bon, il y en a un peu partout sur la planète, mais enfin, l'Amérique latine en est particulièrement bien pourvue dans son histoire. Et lui, en effet, un peu oublié, enfin même jamais connu en Europe d'ailleurs, alors que nous lui devons tout de même cet effort démesuré d'essayer de traverser l'Amazonie pour bouter les Allemands et sauver Paris, enfin des Prussiens. Ce sont des histoires rocambolesques. Et donc ce sont de toutes petites histoires, terribles bien sûr, mais drôles, mais qui sont des petits bouts de laine qui, au-delà de simplement leur aspect romanesque, permettent, là encore, en tirant ce petit bout de laine, de dévider la pelote de l'histoire. Parce que c'est lié, là encore, au caoutchouc, c'est lié aux manigances aussi de l'Angleterre qui veut supprimer même l'existence de la Bolivie. Donc c'est lié ensuite à l'histoire de Percy Fawcett et de son fils qui se perdent dans la jungle et qu'on ne retrouvera jamais. Donc c'est lié aussi à l'histoire de la planète, aussi farfelue que ça puisse paraître.
Alors, il y a ces vies édifiantes, il y a donc cette maxime de Pascal que vous utilisez. En même temps, m'est venue cette réflexion sur ce que la littérature produit en nous et produit en vous, c'est-à-dire qu'est-ce que la littérature vous fait. Parce que sans la littérature, vous ne vivriez pas ce type d'aventure. Enfin, c'est-à-dire que ce que vous faites comme activité et ce que vous avez produit, prenons l'exemple uniquement d'Amazonia, peu de gens le font. C'est quand même une aventure peu commune. Or, vous le faites avec la littérature. C'est-à-dire que sans la littérature, sans ce projet-là, vous ne le feriez pas, cette aventure peu commune.
Non, non, mais sans la littérature, sans doute, ne vivrais-je pas, quoi, tout simplement. Enfin, je n'en sais rien, puisque depuis tant de temps, je ne fais que cela, avec des guillemets, mais puisque ce projet, je le disais tout à l'heure, a plus de 20 ans, que je viens tout juste d'en passer la moitié, que je travaille donc sur tous ces livres depuis très longtemps, que je travaille là sur les 5 suivants, puisque le projet est inébranlable, inexorable dans sa progression géographique, mais pas seulement, dans sa progression littéraire également. Et donc c'est pour ça que ça n'est pas réellement... Il y a des chapitres qui peuvent ressortir de l'intime, qui ressortent d'ailleurs de l'intime, mais plus de l'intime que de l'autobiographie, parce qu'en fait, ce que je vis, je ne le vivrais pas si je n'écrivais pas ces livres. Enfin, c'est la poule et l'œuf, quoi. Y compris cette aventure avec Pierre qui nous a tout de même bouleversés tous les deux, alors que tout cela, non, ça n'est que de la littérature, voilà, mais sans fiction, voilà. Oui, c'est un pari sur la littérature comme l'envahissement total de la vie, de l'existence, de l'action.
Parce que c'est-à-dire que c'est votre mode de vie, et c'est complètement entremêlé avec votre grand projet littéraire. C'est-à-dire que quand on lit souvent une présentation de vous qui vous présente ainsi, grand voyageur et esprit cosmopolite, soit, il peut y avoir des grands voyageurs et souvent des esprits cosmopolites. Mais j'aurais envie d'ajouter davantage pour vous, c'est-à-dire dispose en lui d'un projet littéraire qui fait qu'il est grand voyageur et qu'il est d'un esprit cosmopolite parce qu'il vit avec la littérature des aventures peu communes. Et ça, j'aimerais le qualifier.
Eh bien, effectivement, ajouter. Vous savez, il y a énormément de paresse dans les présentations. C'est comme les pages Wikipédia. Parce qu'en fait, cette phrase que vous citez, qui est une espèce de gimmick, c'est une très vieille phrase du seuil de présentation du livre. Donc, et elle est reprise sans arrêt. Alors, grand voyageur, bon, pourquoi pas, mais l'esprit cosmopolite, pourquoi pas, ce n'est pas quelque chose que je renie ou que je conteste, mais en même temps, je ne voyagerai pas, enfin, je ne voyage jamais d'ailleurs, autrement que pour ce projet. Mais enfin, il n'y a pas que ça, je ne fais rien d'autre que ce projet. Quant au cosmopolitisme, bon... Non, il y a surtout ce goût immense de la planète et donc des littératures de la planète, puisque ces livres sont également très métalittéraires. Enfin, je ne vais nulle part sans avoir essayé de lire toute la littérature, à la fois les grands morts et les vivants, et puis ensuite de rencontrer les vivants. Ces livres sont pleins d'écrivains, parce que, à la fois les grands morts, ayant lu... Les écrivains, j'essaie de les rencontrer, de les côtoyer, et puis parfois également de les éditer. Enfin, c'est tout un... Puisque j'invite en France et j'édite des écrivains latino-américains en ce qui concerne Amazonia, par exemple. C'était le cas aussi avec Viva et le Mexique. Donc tout cela est indémerdablement lié. En fait, ce projet Abracadabra... qui est voilà, toute ma vie, enfin ma raison d'être et de travailler. Ben, de plus en plus, je pense à cette phrase de Yourcenar qu'elle prête à Zénon dans L'œuvre au noir, qui depuis longtemps, depuis très très longtemps, c'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, ben, où elle lui fait dire, mais qui serait suffisamment insensé pour ne pas, avant de mourir, faire le tour de sa cellule ? C'est le moment où Zénon est enfermé, quoi. Alors nous, notre cellule, puisque nous ne sommes pas en tôle, est un peu plus grande. Ce sont ces 40 000 kilomètres de diamètre de l'équateur. Mais bon, je ne vois pas de projet plus intéressant que de faire... Et c'est assez grand. On ne cesse de dire que la planète rétrécit. Enfin, c'est absolument vrai. Enfin, c'est la phrase de Rimbaud. Bientôt, partout, la malle bourgeoise nous déposera... tout cela sera la même chose, mais néanmoins, dès qu'on s'écarte un peu des aéroports ou des centres-villes ou des centres internationaux, c'est quand même assez grand, cette planète. Enfin, ça suffit. En tout cas, ce projet de 12 livres dont je viens juste de passer le milieu correspond amplement à mon espérance de vie.
Alors, il y a un mort notamment... Et on pourrait imaginer que celui-ci vous hante. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Percy Fawcett. Parce que votre aventure, qui se passe dans les années 2010, elles peuvent être aussi le pendant, elles peuvent être comparées à celles de Percy Fawcett et de son fils dans les années 1920. Et alors, il y a un moment donné, c'est deux phrases qui m'interpellent. Les trois Anglais sont-ils à présent des divinités blanches vénérées au fond de la forêt ? George Diot trouve dans leur village quelques objets personnels de Fawcett intégrés à l'artisanat local. Ces deux phrases, elles me hantent parce que, Percy Fawcett a disparu, sans doute est-il mort de mort violente, il y a de grandes chances, avec son fils, donc c'est là qui fait le pendant de votre histoire, et c'est comme si la forêt, les populations locales les avaient absorbés, leurs objets, leur force.
Oui, et là, c'est une histoire père-fils que j'aurais de toute façon écrite. Ce que la présence de Pierre a changé, c'est qu'il y en a bien davantage. Il y a d'autres histoires père-fils que peut-être je n'aurais pas écrites si... parce que finalement, le sujet d'Amazonia est devenu cette histoire de rapport père-fils qui me fascine depuis très longtemps. Depuis que j'écris ces vies, enfin, à chaque fois que j'écris des vies, c'est très patrilinéaire. Je cherche le père. Pour écrire la vie de Jonas Savimbi, j'avais cherché l'hôte de Savimbi. Pour écrire, je n'ai pas encore écrit la vie de Rudyard Kipling, mais j'ai déjà mentionné le fait que son fils John, qui est complètement miro, meurt à cause du poème de son père, If, tu seras un homme, mon fils. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Savarnian de Braza, son père Ascanio, à chaque fois, Malcolm Lowry et son père Arthur. Ça me fascine et c'est peut-être pour ça que j'ai proposé, c'est même certainement pour ça que j'ai proposé à Pierre que nous continuions ainsi. Nous sommes extrêmement proches, mais. Et puis, enfant, nous avions beaucoup voyagé tous les deux avec Pierre. Ensuite, Pierre est un adulte, un homme énigmatique. Nous sommes deux hommes adultes. Et donc, il y avait ce risque, évidemment, de... Nous avons fait quelques exercices propédeutiques dans les Alpes. On est déjà allé une première fois à Rio parce que nous en étions conscients. On nous mettait un peu en garde aussi autour de nous. C'est-à-dire qu'une fois embarqué sur un navire et sur le fleuve, on ne peut pas claquer la porte, s'engueuler et descendre, quoi. Donc il y avait effectivement ce risque. Il y a eu des heurts d'ailleurs, il y en a dans le livre, et des heurts concernant justement les carnets et l'écriture, c'est-à-dire encore une fois la littérature. Mais par contre, cette histoire de Percy Fawcett et son fils, je crois que de toute façon je l'aurais écrite. Celle de Maufray et son fils, je ne l'aurais pas écrite si nous n'avions pas fait le voyage ensemble avec Pierre, par exemple.
Et cette aventure avec Percy Fawcett, elle se termine ainsi. Enfin, en tout cas, j'ai envie qu'elle se termine ainsi, mais elle ne se termine bien entendu jamais. Nous considérâmes avec Pierre qu'il était inutile d'insister, 93 ans après la disparition du père et du fils, et que l'histoire devait en rester là. Nous nous demandions accessoirement qui pourrait bien, si nous ne reparaissions pas, se lancer à notre recherche en 2025, 7 ans plus tard.
Oui, c'est une blague, mais après tout, pourquoi pas, parce qu'on les a cherchés très longtemps. Enfin, c'est devenu un mythe, mais le Percy Fawcett et son fils. Et puis littérairement, ça me permettait aussi, parce que c'est une histoire très très comparable pour les Anglais, c'est moins connu pour nous, mais c'est une histoire très comparable aux deux expéditions de Henry Morton Stanley. La première pour aller chercher les Livingstone égarés en Afrique centrale, et la deuxième pour aller sauver Emin Pacha en Équatoria. Histoire que j'avais racontée dans ce livre Équatoria, mais histoires qui ont beaucoup marqué l'imaginaire des Anglais. Et c'est le souvenir de Livingstone, enfin voilà, Dr. Livingstone, I presume, qui a suscité toutes ces expéditions pendant des années pour aller chercher Percy Fawcett. Et donc je mentionne cette expédition de Fleming, Peter Fleming, qui lui-même, dans son livre, lui-même est très drôle, c'est cet humour anglais magnifique, quoi, qui lui-même utilise ce parallèle avec Stanley, sauf que les temps ont changé. Stanley, Il retrouve Livingstone, c'était en 1871. Là, la recherche de Percy Fawcett par Fleming, à laquelle il ne croit pas un instant, c'est le début des années 30, c'est 1932. Et quelque chose qui passe de l'épopée à l'équipée, qui en dit long aussi sur la période. Enfin, voilà, comme toujours, tout est symptomatique d'une évolution du monde, de la pensée, de la vie. On ne peut plus. C'est après la Première Guerre mondiale que lui a vu disparaître son père, officier, dans la bataille de la Somme. Enfin, c'est toute l'histoire, oui, de terrible du XXe siècle. C'est-à-dire que n'importe quelle petite histoire comme ça ou vie, à la fois, il faut la voir comme on regarde les insectes, avec une loupe, le brin d'herbe. Et puis ensuite, il faut avoir un point de vue satellitaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me fascine, d'être au ras du sol avec les lichens, l'herbe, les bestioles. Le détail, les odeurs, les sons, les goûts de ce qu'on mange quand on est ailleurs, et puis d'un coup, voilà, de bondir à des milliers de mètres d'altitude dans un satellite et de voir l'évolution de cette planète pendant deux siècles dans sa simultanéité. Parce que c'est ça le sujet de ces livres, c'est que 1860, c'est le début de la réalisation de la première mondialisation, qu'un événement quelque part ne peut pas avoir de conséquences, ne peut pas ne pas avoir de conséquences ailleurs, et qu'il faut regarder ça de très loin et baigner comme cela la planète dans le flux du temps, au-delà de la vie singulière des hommes, qui est tout de même ce qu'il y a de plus fascinant, mais il y a aussi la vie de la population mondiale dans son ensemble.
Alors, quand on parle d'Amazonie, on parle beaucoup d'explorateurs, on parle de grands bandits, on parle de dictateurs. Il y a une catégorie dont on n'a pas encore parlé dans notre entretien, Patrick Deville, c'est les ethnologues. Et pourtant, il y avait cette phrase en exergue de Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, célèbre première phrase, très très célèbre première phrase, aussi célèbre que la première phrase de Proust, « Je hais les voyages et les explorateurs ». En ce moment, je lis beaucoup Philippe Descola. Et Philippe Descola, son grand terrain d'ethnologue, anthropologue, était également en Amazonie. Et alors, je pensais à ses premières phrases à lui, et ses premières phrases sont absolument dotées d'une grande puissance. Par exemple, il y a la première phrase des « Lances du crépuscule » avec les Indiens Jivaros de Haute-Amazonie. On n'est plus sur l'Amazonia. C'est celle-ci, cette phrase. Même à qui les aborde sans prévention, les frontières de la civilisation offrent rarement un visage aimable. Et puis il y a cette première phrase de Par-delà nature et culture, la grande œuvre de Philippe Descola, et c'est celle-ci. C'est dans l'aval des Caparmi, une rivière limoneuse de la Haute-Amazonie, que j'ai commencé à m'interroger sur l'évidence de la nature. Mais vous avez choisi « Je hais les voyages et les explorateurs ». C'est parce que ça parlait de vous ?
Non, pas du tout, parce que c'est une blague. Puisque Lévi-Strauss lui-même se contredit dès la première page. Puisque le Triste Tropique n'est pas un ouvrage scientifique, ce n'est pas l'anthropologie structurelle. Il nous raconte ses voyages et il nous raconte ses explorations. Donc je l'avais placé en exergue parce que je trouvais ça drôle. Et puis, je n'avais pas relu Triste Tropique depuis 40 ans à peu près, quoi. J'avais lu ça étudiant dans les années 70. Et le relisant, c'est pour cela aussi qu'il faut avoir une bibliothèque, qu'il faut conserver les livres. J'avais déjà mentionné ça dans Tabataba à propos d'un autre livre. C'est-à-dire que non seulement il faut... D'abord, la relecture est un bonheur encore plus immense que la lecture. Enfin, relire, c'est extraordinaire, toujours. Mais relire le propre exemplaire, il faut que ce soit le même, qui est annoté, gribouillé, Et avec cette énigme, cette découverte d'abord à chaque fois qu'on relit, de constater que le livre est différent, alors qu'on sait qu'il est le même à la virgule près, on en est encore davantage certain lorsque c'est l'exemplaire qu'on a en bibliothèque depuis 40 ans. Et c'est soi-même évidemment lecteur qui n'est plus du tout le même, et donc le livre paraît n'être plus le même. Et relisant ce qu'on a pu noter dans les marges ou souligner 40 ans plus tôt, après avoir vécu pendant 40 ans, lu dans cet espace des milliers d'autres livres, cet exercice est fascinant. Ce qu'il a dans Triste Tropique cette fois-ci m'a fasciné, ça n'est pas du tout ce qui m'avait intéressé lorsque j'étais étudiant dans les années 70. Et ce sont des petits détails. Bon, d'abord, je voulais mettre Lévi-Strauss en parallèle avec avec la fin tragique de cet ethnologue états-unien, Buell Quain, qui a travaillé un peu, enfin qui a voyagé avec Lévi-Strauss. C'est la même époque, ils sont jeunes tous les deux, et puis lui se suicide. Ça renvoie à la phrase que vous avez lue là d'ailleurs. La manière d'affronter l'altérité absolue, il faut être très solide pour le faire. Lévi-Strauss était un type très très solide, même s'il raconte dans Triste Tropique ces très très longs moments d'ennui où il se demande à quoi ça sert et pourquoi il est là à s'emmerder, pourquoi il a tout abandonné uniquement pour être au milieu d'un peuple en train de disparaître, enfin de quelques types dont la culture va disparaître. Et je l'ai trouvé beaucoup plus sombre. Et puis je voulais mentionner aussi ces rencontres de l'écrivain brésilien Bernardo Carvalho, qui est pas un ami mais enfin un camarade. Nous nous connaissons depuis 15 ans, je lis ses livres, nous nous rencontrons. Et lui avait côtoyé Lévi-Strauss quand il était correspondant à Paris de la Folha de São Paulo. Et donc le très vieux Lévi-Strauss disant que finalement, ça, avec étonnement, il constatait que sa propre culture était menacée de disparition. Ce qu'il n'imaginait pas à l'époque où, chez les Krao, les Nambiquara, il était évidemment, il voyait bien que ces cultures étaient il les étudiait parce qu'elles étaient en train de disparaître. Et à la fin de sa vie, Lévi-Strauss se dit... Et donc cette culture en train de disparaître, c'est celle de Montaigne, c'est celle de l'humanisme, enfin c'est la nôtre, enfin c'est notre fondement.
J'aimerais qu'on continue avec les ethnologues, parce que vous n'êtes pas ethnologue, et vous ne faites pas cette aventure-là, ni comme aventurier, ni comme ethnologue. Alors vous nous sortez quelques petites blagues, mais qui sont aussi des sortes de vérités. Je vous lis. On inventerait plus tard cette boutade selon laquelle un groupe de chasseurs-cueilleurs était à présent constitué de 10 chasseurs, 10 cueilleurs et 10 ethnologues. Et puis un peu plus loin, mais quel ethnologue ne passerait pas pour un être bizarre aux yeux d'un Indien ? Du coup, votre relation avec l'ethnologie que vous lisez, bien entendu, mais vous n'êtes pas ethnologue, vous n'avez jamais voulu être ethnologue, néanmoins... Vous êtes sur des terrains communs.
Je ne sais pas si on est sur des terrains communs. C'est comme avec les historiens. Je lis les historiens. Là encore, les grands morts. Beaucoup de tendresse et d'admiration pour Michelet et Quinet. Les œuvres, d'ailleurs, historiennes, donc scientifiques, de Michelet et Quinet sont devenues de la littérature, de la fiction. On en sait plus sur la vie sociale réelle au XIXe siècle en lisant Balzac qu'en lisant Michelet. C'est très intéressant. Mais s'agissant des historiens contemporains, je les lis, j'en fréquente certains. Debecq, Boucheron, Mona Ozouf, nous parlons. Et j'organise chaque année à l'abbaye de Fontevraud des rencontres autour de la littérature et l'histoire. Donc ça m'intéresse énormément, cette interrogation. Il en est de même avec les ethnologues, avec cette visée scientifique. Mais la littérature est autre chose. Enfin, il y a de mon côté, peut-être que je me plante complètement, mais cette grande revendication que la littérature peut autre chose, qu'elle ne se substitue pas. La visée scientifique est indispensable, historienne, ethnologique, anthropologique. mais que la littérature est autre chose. Et donc les lisants, mais ce que vous venez de citer sur l'observation, en fait, je le mets dans un double rapport, là encore, très paradoxal, mais qui pour moi est parallèle. C'est avec la microphysique et ce qu'on appelle dans l'école de microphysique de Copenhague dans les années 30 l'incertitude de Heisenberg. C'est-à-dire qu'en microphysique, on ne peut pas. Il y a un palier au-delà duquel, si on observe, on modifie ce qu'on observe. Et c'est quelque chose de très important pour l'ethnologie. Ce type assis au milieu du village pendant des semaines à remplir énigmatiquement un carnet dans des civilisations qui ignorent l'écriture. Évidemment qu'il modifie ce qu'il observe, qu'il ne se passerait pas la même chose s'il n'était pas là, s'il n'observait pas. Et puis je fais ce deuxième parallèle évidemment avec mon fils en me disant que je ne sais pas, je ne saurais jamais comment est mon fils quand je ne suis pas là. Que la présence modifie ce qu'on observe, bouleverse ce qu'on observe.
Parce que j'aimerais qu'on termine. Oui, il faut quand même expliquer ce qui se passe derrière la fenêtre. Un rare orage, une averse tropicale peut-être. J'imagine que vous en avez déjà vécu de similaires en ces contrées. J'aimerais, Patrick Deville, qu'on conclue justement avec le propre de votre entreprise, qui est une entreprise peut-être d'aventure littéraire et qui englobe toutes ces disciplines sans en être une particulièrement. Vous venez de parler de l'histoire, mais aussi de la géographie, des ethnologues, donc de la bibliothèque avec laquelle vous vous déplacez, enfin peut-être pas en bateau, elle doit rester chez vous localisée bien entendu, mais elle est présente dans votre tête. Je n'oublie pas non plus votre hypermnésie qui fait que vous avez cette mémoire-là qu'il vous reste constamment avec vous. Et donc j'imagine que la bibliothèque est présente dans votre tête sans avoir besoin de la déplacer avec vous à bord du bateau, qui fait que vous arrivez avec toutes ces disciplines, cet ensemble de disciplines, sans que l'une domine une autre, que vous êtes aussi bien un peu historien, un peu géographe, un peu ethnologue, mais surtout aventurier littéraire.
Oui, aventurier littéraire, hein, strictement littéraire. Moi, je ne suis pas du tout aventurier. Mais encore une fois, je suis sûr qu'on ne peut pas faire ses livres sans y aller voir, sans payer un peu de sa personne. Et puis, il y a le grand goût de faire cela aussi. Il faut bien voir que la motivation, c'est aussi... tout cela, ce sont des rêves d'enfant. Tout cela vient du petit Michel et de ce livre et Abracadabra. Et depuis 60 ans, j'écris Abracadabra. Et la lecture de toute la bibliothèque et l'étude des sciences, et cela vient de cette curiosité et de cette interrogation. Je suis très respectueux et admiratif des spécialistes. Et heureusement qu'il y a des spécialistes. Enfin, principalement, je ne sais pas, en chirurgie, par exemple, en neurochirurgie, je suis très heureux qu'il y ait, ou même en chirurgie dentaire, d'ailleurs, enfin, je suis très heureux qu'il y ait vraiment des spécialistes. Mais très vite, enfin, oui, enfant, je crois, j'ai bien vu que ça n'était pas mon truc de devenir spécialiste de quoi que ce soit. Et donc, moi, ma formation, c'est la philosophie, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la spécialité. C'est essayer de tout balayer, de la littérature à la science, à la géographie. Et avec cette curiosité et puis cette fascination pour quelque chose de... Enfin, qu'on appelait autrefois la poésie. Voilà. Mais moi, je demande qu'on écrive roman sur les couvertures de mes livres. Parce que pour les libraires, mais on pourrait écrire poème, mais au sens antique, au sens de cette visée qui concourt sans concurrencer, il y a vers le réel à la fois la visée scientifique qui est indispensable, toute ignorance est coupable, mais elle n'est pas suffisante, et il y a la visée poétique sans quoi on ne peut pas habiter le monde, cette saisie poétique du réel par la... par la littérature, la peinture, la musique, ben tout cela est poésie. Au sens, c'est Artaud qui utilisait le mot de poésie en ce sens classique ou antique. Enfin, quand il parle de la poésie de Van Gogh, c'est ça, c'est la saisie du réel de manière poétique qui n'a rien à voir avec un quelconque réalisme. Enfin, nous parlions de l'imaginaire. Et parce que tout de même, nous, notre but, je ne sais pas si c'est un but, mais enfin, c'est tout de même d'habiter le monde, quoi, de vivre tout simplement, de se demander ce qu'on y fait, de ce grand étonnement d'être vivant tous les matins et d'y aller voir. Enfin, la curiosité, c'est le seul moteur, le seul immense bonheur, c'est la curiosité. Il y a tant de choses que je ne sais pas encore, enfin qu'il s'agisse de scientifique, géographique ou littéraire, que cette curiosité est inépuisable, parce que l'objet est inépuisable.
Merci beaucoup, Patrick Deville.